Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème prise en charge sanitaire des cas de viol au Niger. Le dictionnaire pratique du droit humanitaire définit le viol comme le fait de soumettre un individu par la force ou la violence à une relation sexuelle non volontaire. Il s'agit d'un crime prévu par le droit pénal national de la plupart des pays. Il peut être également entre personnes du même sexe. On parle également de violence sexuelle qui encadre le viol et toute forme d'attouchement à caractère sexuel non consenti. Selon le rapport final de l'étude sur l'ampleur et déterminant des violences basées sur le genre au Niger, menée par l'UNFPA en septembre 2015, quelle que soit la forme de violence sexuelle, les femmes sont les plus touchées et le viol constitue l'une des formes les plus fréquentes de ce type de violence, concernée par 7% des femmes soumises à cette étude. Toujours selon cette étude, les viols sont les plus fréquents en milieu urbain. 9% des cas de viol enregistrés sont en milieu urbain. Pour en savoir plus sur la question, nous avons convié autour de la table Dr Lawali Chekarao Mahamadou. Il est gynécologue obstétricien au niveau de l'hôpital de l'amitié nigéro-turc. Bonjour docteur.
Bonjour, très bien.
Merci d'être des nôtres sur cette émission. Nous avons avec nous monsieur Ousseini Adamou, il est psychologue. Bonjour monsieur Ousseini.
Bonjour.
Également comme invité, nous avons monsieur Iliassou Amadou. Il est gestionnaire des cas au niveau de l'ONG Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Bonjour monsieur Iliassou.
Bonjour madame.
Au micro, vous êtes en compagnie de Rabia Maïkano. Chers invités, chers auditeurs, dans la première partie de ce forum, nous voulons en savoir plus sur les victimes et la procédure de la prise en charge sanitaire auxquelles elles ont accès au niveau des centres de santé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons un témoignage de victime de viol qui nous vient du département de Konni.
Cela m'est arrivé aussi. En ces temps, j'étais petite. Je ne connaissais ce qu'un homme. Lorsqu'on m'a violée, j'ai même perdu connaissance. Ce qui est grave encore, c'est un de mes cousins qui m'avait violée. Mes parents avaient honte de dénoncer. C'est une de mes sœurs qui a appris la nouvelle 3 jours après. Elle m'a amenée au centre de santé. Mais les agents de santé ne m'ont pas acceptée parce que l'acte s'est passé il y a plus de 3 jours. Mes parents et moi, nous étions tous choqués. Les parents n'ont pas dénoncé parce que ça va ternir mon image et je peux ne pas trouver quelqu'un qui va m'épouser. Car c'est une tâche qui ne se fasse pas.
Effectivement, j'ai été victime de viol. Lorsque j'avais 11 ans, on m'envoyait vendre des produits en ville. Un homme adulte m'a appelé, il m'a violée. De retour à la maison, je me suis mise à pleurer. Mes parents m'ont demandé, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ma mère a investigué et l'acte était avéré. On m'a amenée au centre de santé par la suite. Les agents ont refusé de m'admettre au début, avant de céder finalement.
Alors, monsieur Ousseini, en réaction au témoignage de ces victimes, dites-nous l'importance d'une prise en charge sanitaire pour une victime de viol.
Oui, merci de m'avoir donné la parole. En écoutant les deux survivantes
qui ont eu du mal à avoir accès.
Qui ont du mal, effectivement, à avoir accès aux soins. Et ce qui est déjà, à mon sens, quelque chose que je déplore, parce que la première prise en charge d'une victime de violence sexuelle, c'est la prise en charge sanitaire. Le gynécologue, il est là, le gestionnaire de cas, il est là aussi. Il sait très bien que la première des choses qu'il faut faire, c'est vérifier effectivement s'il y a eu ce viol et après prévenir des conséquences sur le plan physique, d'accord, les conséquences qui, effectivement, je suis sûr qu'il va aussi détailler.
S'élargir.
Voilà. Et pour le gestionnaire de cas aussi, c'est quelque chose que je connais, hein, la gestion de cas. La survivante a besoin d'une évaluation de besoins pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour la prise en charge holistique. Il y a aussi un problème dans la prise en charge de VBG, bon, de violence basée sur le genre, la méconnaissance. Peut-être les agents de santé n'ont pas connaissance d'un principe selon lequel la prise en charge de VBG est gratuite quelque part. Elle est gratuite, mais je ne sais pas si là où la victime a été pour la prise en charge, si ça a été au rendez-vous ou pas.
Oui.
Sinon, des points de vue psychologiques, si la prise en charge est, comment on appelle, physique n'a pas été faite, le psychologue...
Ou bien faite.
Voilà. Si elle est faite, là, la prise en charge psychologique peut avoir lieu correctement.
Oui.
Parce que c'est la première évaluation. L'évaluation de base, c'est vraiment évaluer pour comprendre est-ce que la personne a trouvé le premier service. Le premier service, c'est le service sanitaire d'abord.
Le service sanitaire, docteur Lawali. Alors, quelle est votre réaction à ce témoignage?
Ok, merci Rabia pour l'invitation et l'honneur que vous me faites d'assister à cette émission. Bon, en fait, ces deux victimes, c'est des cas déplorables quand même. Deux jeunes filles qui ont subi donc des violences et la prise en charge a été un peu retardée. Je pense que, comme l'a dit M. Ousseini, cela dénote un peu de l'aspect des méconnaissances de ce qui doit être fait d'abord par l'agent de santé et donc en général donc des règles de la déontologie médicale même qui dit qu'il faut assister toute personne quand même en danger.
Dans le besoin, oui.
Dans le besoin. L'autre aspect, c'est les agents de santé même donc qui n'ont pas bénéficié de formation approfondie par rapport à ça. Donc, ils ne savent pas aussi comment mener cette activité. Le troisième aspect, c'est aussi une question de procédure. Parce que normalement, c'est vrai que la procédure, on peut des fois la mettre de côté. Normalement, la personne doit venir avec un papier de la justice, donc du commissariat ou de la justice. Donc, avec ce papier-là, et le médecin, il a obligation de prendre en charge et de répondre à la justice.
Donc, en fait, la première étape, c'est d'aller d'abord à la justice, de prendre ce papier et de venir au niveau des centres de santé. Alors, monsieur Iliassou, au niveau de SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales, vous avez ce type de cas de viol qui tarde à être pris en charge ou qui n'ont tout simplement pas été pris en charge?
Oui, ok. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Et tout d'abord, je vais rebondir sur, concernant le témoignage de la petite fille qui est victime de viol au niveau du CONI. Vraiment, ce que Dr Devine a dit, c'est très défavorable. Parce que je pense que c'est une violation même de ses droits. Le fait que les victimes de viol, la prise en charge n'est pas adéquate. Donc, je pense que l'État ou bien la société devait revoir ce genre de conditions. À notre niveau, et au niveau de l'ONG FEV, nous recevons beaucoup ce genre de cas. Surtout la plupart, ce que le docteur vient de dire, certes, d'autres n'arrivent pas à avoir la réquisition à personne au niveau de la police ou de la gendarmerie pour se présenter au niveau de la santé. Mais parfois, c'est le problème même de vulnérabilité, je peux dire. Parce que la plupart des souffrantes, même si elles ont la réquisition à personne au niveau de la santé, ils n'ont pas de moyens. Parce que la prise en charge ici à Niamey, ce n'est pas gratuite.
Nous allons revenir sur cette non-gratuité de cette prise en charge un peu plus tard. Une étude sur la gestion clinique du viol au Niger, menée par l'UNFPA en 2020, a permis de mettre en lumière la manière dont cette prise en charge est fournie, la qualité du service fourni aux survivants de violences sexuelles. Nous voudrions en savoir plus sur ces victimes que vous recevez, docteur Lawali. Que pouvez-vous nous dire sur ces victimes, leur tranche d'âge?
Ok, merci Rabia. En ce qui concerne les victimes, il faut savoir que, en règle générale, les violeurs s'avèrent être des hommes et
les victimes,
c'est des femmes. Et nous, au niveau de, disons, au niveau de la maternité Issac Gozobi, où je suis resté, où je recevais à l'époque donc les cas de réquisition à personne, et on a beaucoup plus de jeunes filles scolarisées pour certaines et pour certaines pas, et pour d'autres pas, qui ne sont pas mariées en général, donc qui sont des adolescentes, qui sont donc du milieu urbain. Je ne sais pas, parce que peut-être que du fait de l'éloignement du centre, des centres ruraux, on ne reçoit pas donc les patients du niveau rural. Ouais. Mais quand même, la majorité, ou dans l'ensemble, là, c'est des patientes qui sont de Niamey.
Alors, pour un novice, c'est quoi vraiment cette prise en charge, la procédure? Comment elle se fait?
Ok, donc je vais donner les grands points.
Ok.
D'accord. Tout dépend de la gravité du cas. Par exemple, vous avez un viol avec une complication majeure, la femme qui saigne ou qui a perdu connaissance. La première des choses, c'est la prise en charge médicale qu'il faut. Donc, on règle le problème de la prise en charge médicale. On la prend en charge. Ensuite, donc, on va porter plainte et les parents reviennent avec un papier et nous, on fait un rapport détaillé qu'on retourne au commissariat ou bien au juge qui a demandé cette réquisition. D'accord? Si le cas ne menace pas la vie de la femme, généralement les parents ils savent. Donc il faut un tour au commissariat. Donc ils prennent un papier de réquisition à personne, donc où l'agent de la police note. Mm-hmm. Note ce qu'il veut que les questions auxquelles il veut que vous répondiez.
Ok.
Voilà. Donc, les parents viennent au niveau du centre de santé et en ce moment, on les reçoit. Maintenant, la prise en charge de foie au niveau donc de Gazobi, elle est un peu retardée. Ça, nous déplorons ça aussi. Parce que vous allez voir beaucoup de femmes qui attendent pour d'être secourues par la césarienne, et de l'autre côté, vous avez aussi des femmes qui attendent pour être dans leurs droits.
Une insuffisance à ce niveau d'agents.
Voilà. Donc, ce qui fait que la prise en charge, avant de prendre en charge, ça peut prendre du temps, des heures, mais finalement, quand même, et toutes les patientes qui viennent avec une perquisition à personne sont vues. L'autre aspect, la personne qui a subi une agression sexuelle,
oui,
elle ne doit pas être seule. Donc, il faut qu'elle en parle à une personne, comme la victime de Conny, qui a pleuré, qui en a parlé à ses parents, et ses parents l'ont prise en charge. Donc là, c'est un des aspects. D'accord?
Mm-hmm.
Elle doit en parler aux parents ou à une personne de confiance.
Ok.
Et la personne victime d'agression sexuelle ne doit pas se sentir coupable de cette agression. Elle doit se rendre dans un service de médecine légale ou de l'hôpital le plus proche pour une consultation. Il faut chercher les personnes et les lieux prêts à vous aider. Ça, okay. C'est les différentes procédures. En gros, les grandes lignes.
Les grandes lignes, voilà. Il faut vraiment se faire accompagner, comme vous le dites. Et cette Ce document, perquisition à personne, qu'on doit aller chercher au niveau de la police, est vraiment important et il facilite cette prise en charge sanitaire, voilà, au niveau des centres de santé. Alors, M. Iliassou, que pensez-vous du traitement proposé aux victimes de viol dans les centres de santé? Vous avez là une vision assez globale de comment ça se passe, de par votre expérience aussi sur le terrain. Quelle appréciation faites-vous de cette prise en charge?
Ok, merci. Et concernant la prise en charge au niveau de la santé, d'abord, je vais revenir surtout au niveau de la famille de la victime.
Ok.
Parce que le problème se pose d'abord au niveau de dénonciation. Parce que les parents de la victime prennent du temps pour dénoncer ou bien pour amener la survivante au niveau de la santé. Et aussi, je parle aussi du niveau de la société.
Mm-hmm.
Donc, et ce qui concerne la prise en charge, surtout au niveau de la santé,
oui.
Au niveau de la santé, donc vraiment, et je peux dire que dire que la prise en charge n'est pas adéquate parce que on reçoit ou bien de retour beaucoup de survivantes qu'ils disent que la prise en charge n'a pas été assurée au niveau de la santé. Pourquoi? Défaut de frais d'expertise médicale.
Ok. Qui s'élève à combien?
Qui s'élève
c'est
à
quoi ces frais?
30 000. Juste pour voir le gynécologue. Juste pour voir les consultations du gynécologue, c'est 30 000. Après le 30 000 pour l'expertise médicale, il y a aussi les frais médicaux pour l'ordonnance. Ouais. Donc, d'autres partent au niveau de la santé, où le domaine c'est frais, bon, ils n'arrivent pas vraiment à retrouver. Ils sont obligés de retourner pour aller au niveau des organisations non gouvernementales qui entrent dans le contexte, ou même de retirer la plainte pour dire qu'ils ne vont pas poursuivre parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, vraiment, au niveau de la santé, toujours, l'accueil, les agents de la santé, je peux dire, je sais pas, ils n'ont pas la formation sur la gestion des cas. L'accueil vraiment n'est pas vraiment tout à tout favorable au niveau de la santé.
Okay. Les,
beaucoup de survivantes disent qu'elles sont même menacées au niveau de la santé parce qu'on n'a pas à les écouter, même si prendre du temps, tout ça vraiment, ça les décourage. Parce qu'une petite fille peut-être qui est victime de viol de 3 jours, normalement, le cas de viol, c'est 72 heures pour déterminer certaines conséquences. Donc, ouais. On va dire la survivante des patientes de venir s'asseoir jusqu'à 30 minutes ou jusqu'à même 3 heures de temps sans voir même le gynécologue. Vraiment, parfois, ça décourage les survivantes.
Oui, oui, oui. On suppose que les victimes n'ont pas besoin de tout ce labyrinthe déjà pour voir le gynécologue. C'est 30 000, docteur. Expliquez-nous, c'est quoi ces frais? Pourquoi 30 000?
Bon, en fait, normalement, il y a les frais qui accompagnent donc, la perquisition à personne. Donc, ces frais-là, en principe, c'est le ministère de la Justice qui doit verser donc, ces frais au niveau du ministère de la Santé ou bien des structures qui font ce genre de perquisition, de réquisition à personne, d'accord? Donc, il s'avère qu'il y a des problèmes de transmission entre les deux ministères, ce qui fait que au niveau du ministère de la Santé, donc, il y a eu quand même une note ou un circulaire qui est sorti pour que les personnes puissent avancer ces frais de 30 000 francs pour la perquisition. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que la prise en charge, elle est faite. La personne vient avec son papier, on la prend en charge. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'argent devant. On la prend en charge et puis maintenant, on vous demande à la sortie
de payer.
Bon, maintenant, ça, c'est les cas, par exemple, où les gens ont subi des attouchements, des violences sur team. Là, c'est cette procédure. Mais j'ai dit tantôt, par exemple, si la patiente est venue dans un état de complication, elle a saigné, elle a des lacérations vaginales, tout ça, la prise en charge, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'on vous prend rapidement, il y a des kits, on vous prend rapidement, on vous examine, on vous amène au bloc, on suture les lésions, on vous hospitalise, on vous amène les soins. Et puis, c'est comme ça. Et après, maintenant, on demande une réquisition. Bon, pour les cas graves, là même, on ne met même pas l'argent devant. Parce que l'argent, nous, c'est juste un peu de fois pour limiter aussi le nombre. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'attouchements sexuels, de machin. Et les gens sont prompts à porter plainte.
Okay.
Et on pense que, bon, certains cas aussi qui ne sont pas. Il y a des cas, bon, il y a une sélection qui est faite.
Okay.
Mais je pense que ce n'est pas normal de mettre l'argent devant. Et au niveau de l'AMIC, par exemple, nous, on ne met pas l'argent devant. On prend en charge d'abord les victimes et on rédige le rapport. Et il y a une secrétaire qui est chargée donc, de rédiger ce rapport, tout ça. Mais avant la fin de la procédure, on demande à la personne de régler ses frais. C'est vrai que c'est lourd. Je pense que c'est vraiment lourd parce qu'en plus de ça, vous avez aussi donc le bilan médical, des fois, à régler.
Oui. Oui. En janvier 2023, un examen des données secondaires des violences basées sur le genre mené par Gender-Based Violence Aware relève que 35% des femmes soumises à l'étude ont indiqué qu'elles ne signalaient pas les incidents de VBG dont elles étaient victimes ou dont elles avaient connaissance. Parmi les raisons pour lesquelles les survivantes de VBG n'accèdent pas au service, il y a la peur d'être stigmatisée par la communauté, le manque de confidentialité, le manque de personnel féminin dans les structures de soins sont également mentionnés. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Ousseini. Que pensez-vous de cette procédure telle qu'elle est faite dans les centres de santé, de cette question de frais qui accompagne ce document de perquisition de personnes? Dites-nous, est-ce qu'une victime a vraiment besoin de tout ça, au fait, pour être prise en charge?
Ok, merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je vais dire chapeau à une structure que je connais, APBE, qui intervient dans la région de Tillabéri, dans la région de Tawa et dans la région de Maradi, dans la prise en charge des VBG. Pas à Niamey, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais les trois régions, je sais que APBE, Action pour le bien-être, une organisation locale, a placé des personnels, d'accord, dans certains services de santé pour faciliter cette prise en charge des victimes de VBG.
Okay.
Et ces agents de santé placés dans le service de santé sont chargés de faciliter, de payer même les frais d'expertise là.
Ok, les 30 000.
Les 30 000.
Voilà.
D'accord. Donc, ils vont faciliter l'accès aux soins,
mm-hmm.
payer les 30 000. Il y a même des conseillers, un agent, comment on appelle, qui est censé conseiller la personne dans le sens de porter plainte si elle a besoin.
Ok.
Et les agents de santé placés, généralement, sont des filles, sont des femmes. Pour faciliter encore l'accès aux soins.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est vrai, la question n'a pas été élargie jusqu'à Niamey, mais il y a une ONG vraiment, ou des ONG, qui sont en train de travailler dans ce sens pour faciliter l'accès aux soins. Donc, en ce qui concerne Niamey aussi, si on dit qu'il faut vraiment payer pour avoir accès aux services, je pense que c'est vraiment très délicat.
Oui, c'est délicat. Alors, Monsieur Iliassou, je reviens vers vous. Au niveau de votre structure, comment vous accompagnez ces victimes dans ce processus douloureux?
Ok, merci. Au niveau de l'ONG VEV, Femmes Enfants de Crimes de Violence Familiale, certes, nous intervenons, je pense qu'au niveau national même, parce que toutes les régions, on a des représentants. Donc, moi, je suis basé ici à Niamey, donc dans le cadre d'accompagnement des survivantes. Certes, il y a une procédure. D'abord, nous recevons les survivantes par orientation d'autres organisations que nous travaillons ensemble. Nous recevons aussi les survivantes dans le cadre aussi des signalements, parce qu'on a une ligne verte qui est disponible au niveau national. C'est un appel gratuit. Donc, la survivante, elle peut venir elle-même. Donc, d'abord, on a une salle écoute d'accueil d'abord, accueillir la survivante. Écouter, évaluer ses besoins et comprendre ce qu'elle veut.
Ouais.
Donc, après cette analyse, c'est notre psychologue ou bien assistant social qui est censé gérer le cas. Maintenant, c'est elle qui essaie de déférer ou bien orienter le cas. Si je suis un cas de viol, ce que docteur vient de dire, automatiquement, c'est la prise en charge sanitaire qui urge.
Ouais.
Donc, pour avoir la prise en charge sanitaire, nous accompagnons la survivante d'abord au niveau de la police ou de la gendarmerie pour avoir la réquisition à personne. En même temps, aussi, cet appel, après avoir eu cet acte qui permet d'avoir au niveau de l'expertise médicale, nous accompagnons toujours la survivante au niveau du centre de santé, si c'est l'hôpital de Gazobi ou bien Cabano, pour avoir l'expertise médicale. Donc c'est l'ONG qui assure tout, les frais médicaux, les frais d'expertise médicale, tout ce qui concerne les frais ou bien la gestion du cas, c'est l'ONG qui assure ça. Donc après avoir eu le résultat, donc comme c'est un cas de viol, c'est un cas de crime.
Oui.
Donc c'est avec le consentement de la survivante qu'on essaie d'établir ce dossier pour poursuivre l'auteur. En même temps aussi avec les services étatiques, surtout la police et la gendarmerie. Okay. En bref résumé, voilà ce que nous faisons.
Voilà, saluons alors ces structures qui accompagnent ces victimes tout au long de ce processus. Docteur Maudit, quelles sont les failles, quelles sont les insuffisances à ce niveau et comment améliorer cette prise en charge? De quoi les centres de santé ont besoin à ce jour pour vraiment mieux accompagner ces victimes?
Ok, Madame Rabia. Ok, bon, c'est une question un peu balèze.
Oui.
Bon, néanmoins, nous allons tenter de répondre.
Mm-hmm.
Je pense que on devrait d'abord informer ou sensibiliser ou montrer à nos agents de santé les différentes procédures à suivre. D'accord. L'agression sexuelle n'est pas un acte banal. C'est un acte qui peut se compliquer de traumatisme psychologique que je vais développer un peu tout à l'heure. Donc, il peut entraîner des blessures. Il peut entraîner une maladie, un traumatisme psychologique. Donc, les survivants doivent être évalués à la recherche de ces blessures, à la recherche d'infections sexuellement transmissibles, à la recherche de grossesse ou de troubles de stress aigu ou de stress post-traumatique.
Post-traumatique.
D'accord. Le traitement comprend aussi donc, la prévention des infections et des soins de santé mentale. Je pense que là, Monsieur Ousseini intervient aussi. Donc, pour revenir aux lésions, parce que quand vous avez une agression sexuelle, ça peut se compliquer. On a des cas où on a endormi, on a suturé, on a hospitalisé.
Ouais.
Il faut faire un état de lieu des lésions. Dans 50% des cas, vous avez des lésions d'ordre génital. D'accord?
Ouais.
Et, comme je l'ai dit, donc on peut avoir aussi des lésions qui ne sont pas génitales, qui sont extra-génitales. Par exemple, vous pouvez avoir des traumatismes sur les os, par exemple, ou des traumatismes genre les coups et blessures,
oui.
Donc des douleurs au niveau des seins, tout ça, je n'en reviens pas. Des traumatismes psychologiques chez ces femmes qui peuvent développer une peur, qui peuvent avoir des cauchemars, des troubles de sommeil, qui peuvent se sentir un peu culpabilisées.
Oui, culpabilisées.
Voilà, voilà, ces femmes-là peuvent se sentir et même peuvent présenter donc des amnésies dissociatives. D'accord? Au-delà de tout ça, la personne peut attraper une maladie. Elle peut attraper le VIH, l'hépatite ou l'human papillomavirus, ou d'autres MST ou d'autres maladies sexuellement transmissibles telles que la gonococcie, le chlamydia ou les trichomonas. Donc, à part tout ça, la victime de viol peut tomber enceinte aussi. Et là aussi, c'est un cas où il faut vraiment faire une autre prise en charge de tout ça. Je pense que les Amadou, ils voient peut-être les survivantes après viol, qui tombe enceinte, et ça devient même un problème chez nous, pour les gérer, d'accord?
Alors, ces victimes ont vraiment besoin d'une batterie de tests, d'une attention vraiment particulière. On va revenir vers vous, Monsieur Ousseini, vous êtes psychologue. Alors, dites-nous les conséquences, même si le docteur a commencé à effleurer quand même ces conséquences, mais les conséquences d'une mauvaise prise en charge ou de manque de prise en charge sanitaire sur une victime de viol.
Ok. Les conséquences, d'une manière générale, de femmes victimes de viol, les conséquences sont larges. On ne peut pas lister toutes les conséquences. mais on va quand même grignoter quelques conséquences dont déjà le docteur a commencé à énumérer. Vous savez, les conséquences, il y a des conséquences à court terme, dont il a parlé de stress aigu, donc les conséquences immédiates observées chez la femme victime de viol. Il y a d'abord la dissociation. La dissociation, elle ne peut pas décrire exactement ce qui s'est passé. Elle peut vous dire même qu'elle a oublié la grande partie, la partie importante, parce que c'est déjà un traumatisme.
Oui.
Il y a un corps étranger qui est introduit, donc elle ne peut pas décrire la situation. Donc il y a la colère. La femme, elle va se mettre en colère. Il y a le repli sur soi. Elle va avoir honte de soi-même. Vous voyez, elle va aussi être très anxieuse. Elle va, développer la peur. Ainsi de suite, ce sont des conséquences à court terme. Maintenant, les conséquences à long terme, il a parlé du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique qui se manifeste par le cauchemar, elle va revivre la situation. Dans la nuit ou dans l'état diurne, elle va éviter toute personne qui ressemble à la personne, qui s'habille même à la même manière que la personne, même si elle n'a pas, elle ne connaît pas exactement la personne. Si la personne porte des boubous, elle va éviter toute personne qui porte des boubous. Ça, c'est l'évitement. Dans la journée, dans la nuit, elle va revivre la situation. Vous voyez, elle va éviter de parler de la situation. Elle va aussi, avoir l'impression que tout de suite, la situation va se reproduire. Elle va être en hypervigilance. Dans l'hypervigilance. Tout mouvement, elle va s'effrayer. Elle va éviter de rentrer dans un endroit clos si elle a été violée dans une chambre. Vous voyez, elle va aussi développer des conséquences sur le plan sexuel. D'autres filles vont vouloir éviter le rapport sexuel jusqu'à la fin de leur vie. D'autres filles vont aussi s'attacher à cette relation. Elle va être une fille qui dépend de la relation sexuelle. Elle devient prostituée. Les gens ne connaissent pas exactement la cause. Et surtout les femmes qui ont été violées à bas âge. Elles s'attachent parce que voilà, elle se voit que déjà attachée à cet objet.
Oui.
Elle aime le rapport sexuel. Elle devient, voilà, elle devient une femme
dépendante
de la relation sexuelle. Voilà. Et sur le plan social aussi, elle va éviter de sortir. La dépression va s'installer aussi. Parce que, vous savez, dans la culture, souvent, la culture, bon, je dirais nigérienne, on préfère garder, ne pas parler. Donc, le fait d'empêcher la femme, la fille à ne pas parler va aussi accentuer la dépression. Elle va éviter de parler, elle va éviter de sortir, rester à la maison, elle va avoir peur,
se renfermer sur elle-même. Alors, ce sont là tous ces signes auxquels il faut faire attention.
Il faut faire attention, effectivement. Donc, c'est pour cela qu'il faut signaler.
Okay.
Il faut signaler, il ne faut pas garder à la maison.
Il faut signaler et il faut rapidement prendre en charge
ces
victimes. Oui. Alors là, on va aller pour notre tour de table. Notre dernière question, selon vous, comment garantir une bonne gestion clinique du viol au Niger? La manière dont elle est fournie et la qualité du service fourni aux survivants de violences sexuelles, Monsieur Iliassou, comment vraiment arriver à cette prise en charge spontanée et de qualité aux victimes de violences sexuelles. Selon vous, de quoi on a besoin?
Ok, d'abord, ce qu'on a besoin, je peux structurer ça à deux, voire trois niveaux. D'abord, au niveau de la victime elle-même, d'abord, il faut vraiment intensifier la sensibilisation.
Ouais, intensifier la sensibilisation au niveau des
victimes. Je peux dire au niveau de la société d'abord. Okay. Avant d'être victime,
ouais.
pour dénoncer au niveau des cas de viol. Vraiment, il faut que la sensibilisation, multiplier la sensibilisation dans le cadre du viol. Et deuxièmement aussi, vraiment, il faut renforcer les capacités des agents de la santé dans le cadre de formation, surtout gestion de cas ou gestion clinique de viol par sur le genre. Et troisième aussi, je vais parler sur le cas des textes. Il faut vraiment réviser les textes ou bien appliquer les textes qui sont relatifs du cas de viol, pour que vraiment les frais médicaux ou bien les prises en charge médicales
soient pas lourdes pour la victime,
soit gratuites même, je peux dire, Parce que c'est ici à Niamey, parce que toutes les régions du Niger, je pense, sauf à Niamey seulement que la prise en charge est payante. Mais d'autres régions, je pense que c'est gratuite.
C'est ok, oui, la prise en charge est gratuite dans les régions.
D'autres régions, je pense.
Mais pas à Niamey.
Je pense. Okay. Mais ici à Niamey, c'est payant.
Ok. Oui. Alors, docteur Lawali, on revient vers vous. Dans ces centres de santé, parce que de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vraiment offrir un service de qualité et prompte vraiment à ces victimes de violences sexuelles?
Merci, Rabia. Donc, vraiment pour faciliter un peu la prise en charge de ces patients. Je pense que au-delà donc de la création des centres, par exemple, si vous prenez à Niamey, il y a que la maternité Isaac Gazobi ou bien Kambano, c'est des policiers où la prise en charge se fait. À un certain moment, quand j'étais quand même au CHR Poudrière, on prenait en charge. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas en charge vraiment. Donc il faut dire qu'il faut multiplier quand même les centres de prise en charge, d'accord?
Oui.
Bon, les centres, ça veut dire qu'il faut quand même disponibiliser des endroits où les personnes victimes de ces agressions sexuelles peuvent venir se plaindre et se faire soigner.
Mm-hmm.
Voilà. Nous, ce qui est adéquat, c'est de créer des services de médecine légale. On a un service de médecine légale, un seul au CHU, je crois, mais à part ça, il n'y a pas un autre. Donc, il faut créer ce genre de centre. Par exemple, même au niveau donc, de Gazobi, par exemple, on doit avoir un service de médecine légale. Vous comprenez? Pour que la prise en charge... Parce que c'est une prise en charge... Assez particulière. La recherche des preuves, elle doit se faire comment? Il vous faut des matériels de travail. Pour chercher les preuves.
Ouais.
Au-delà de l'examen, quand vous allez examiner, vous avez besoin de lampe pour voir est-ce qu'il y a des traces de sperme.
Il y a tout un kit utilisé
voilà. Pour donc vraiment on n'a pas
travail.
Ce genre de matériel.
Oui.
Donc, on fait des prélèvements, comme je vous l'ai dit. Donc, les prélèvements, des fois aussi, le malade doit payer et c'est un peu lourd. D'accord?
Mm-hmm.
Maintenant, il faut aussi une prise en charge psychologique. Je crois que avant l'émission, je ne suis pas au courant de travail de M. Eliassou et de M.
Hosseini,
qui font un travail remarquable. C'est très important parce que c'est de l'accompagnement qu'il faut. D'accord. Nous, on soigne, on tourne le dos, c'est fini. Mais eux, ils vivent presque toute la vie avec ses victimes.
Avec ses victimes.
Oui, oui. Donc, vraiment, la prise en charge psychologique, elle est très importante. Et je dirais qu'on n'a pas aussi de mécanisme de prévention du viol
au Niger.
Il n'y a pas de ce genre de mécanisme. Et quand le viol est là, il faut le gérer, d'accord? En sécurisant la victime et la mettre en confiance. Donc, je pense que c'est mon dernier mot. Merci, Rabia.
Ok, on revient à vous, Monsieur Hosseini. Alors là, c'est la même question. De quoi vraiment on a besoin, de par votre expérience sur le terrain, pour vraiment accompagner ces victimes de la meilleure des façons dans les centres de santé?
Ok, merci beaucoup. Je vais rebondir dans le même sens que le docteur et l'autre. La première des choses, selon moi, il faut multiplier la sensibilisation auprès de la communauté pour que la communauté comprenne que le viol, ce n'est pas quelque chose à cacher. Il faut dénoncer. Le violeur, s'il y a lieu de l'arrêter, il faut l'arrêter. La deuxième chose, c'est de multiplier la formation des agents de santé sur la question du référencement, du circuit de référencement. Si aujourd'hui un agent de santé reçoit une femme victime de VBG, il faut qu'elle sache que, ou bien il faut que l'agent sache que cette personne a besoin forcément d'une prise en charge psychologique.
Ok.
D'accord? Et les ONG aussi doivent appuyer l'État. docteur a décrit un certain nombre de points sur lesquels on peut venir appuyer sur le plan de formation, sur le plan
de matériel
effectivement. De créer aussi des centres de prise en charge spécifiquement pour les VBG comme le centre de Tillabéri, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Il y a un centre à Daïkena d'insertion professionnelle et de prise en charge de VBG, un autre à Zender, je ne sais pas si ça existe. Mais ce sont des centres qu'il faut encore créer un peu partout.
Il faut multiplier.
Et aussi l'État devrait avoir des psychologues dans les centres de santé. Docteur peut en témoigner. Au Niger, s'il faut faire la situation des psychologues qui sont dans les centres de santé, on ne dépasse pas 10. Ça, 10, je l'ai dit, hein. ça dépasse même pas 5 personnes, à ma connaissance. Comment on peut prendre des tas de victimes avec 5 psychologues? C'est compliqué.
Nous sommes à la fin de ce forum qui nous a réunis aujourd'hui. Nous étions avec Dr Lawali Chekaraou Mamadou, Dr Maudi pour ses patients. Il est gynécologue obstétricien au niveau de l'hôpital de l'Amitié Nigéro-Turque. Nous étions avec Monsieur Ousseini Adamou, il est psychologue. Nous étions également avec Monsieur Iliassou Amadou. Il est gestionnaire des cas au niveau de SOS, de l'ONG SOS Femmes et Enfants, victimes de violences familiales. Alors, la thématique du jour qui nous a réunis aujourd'hui est la prise en charge sanitaire des cas de viol au Niger. Comment ça se passe au niveau des centres de santé? Nous le tenons à l'issue de cet échange avec nos invités que la première prise en charge médicale, pour la première prise en charge médicale, les victimes ont besoin de se munir de ce papier, de ce document de perquisition de personnes, et ça c'est au niveau des commissariats. Alors ce document, il facilite cette prise en charge au niveau des centres de santé. Les frais également qui accompagnent ce document de perquisition à personne bloquent certaines victimes qui n'arrivent pas à avoir accès aux gynécologues qui doivent les suivre, les prendre en charge. Nous avons également des structures qui accompagnent ces victimes. Heureusement, tout au long de ce processus, nous avons l'ABE, comme vous l'avez dit. APBE, voilà, comme vous l'avez signalé. Nous avons SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales que nous avons reçues dans ce studio qui accompagne au niveau national ces victimes tout au long de ce processus douloureux. Alors, nous retenons également que ces victimes ont besoin d'une attention particulière, d'une prise en charge vraiment spéciale à ce niveau. Et pour arriver à cette prise en charge, qu'elle soit prompte, qu'elle soit de qualité, les agents de santé ont besoin d'être formés dans les centres de santé. Il y a du matériel qui manque et qui doit être fourni à ces centres de santé pour mieux accompagner ces victimes. C'est la fin de ce forum. On se dit à bientôt sur d'autres thématiques.